Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. La première carte en trois dimensions de la matière noire vient d'être réalisée par une équipe d'une vingtaine de chercheurs américains, allemands et français. Une carte qui révèle les effets de cette matière toujours inconnue sur le monde qui l'entoure. Notre invité aujourd'hui est Jean-Marc Bonnet-Bideau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la nature du travail réalisé à cette occasion par les astronomes?
Oui, alors c'est un travail de très longue haleine, c'est-à-dire c'est pas une petite étude, c'est un travail qui a évidemment amené des tas de scientifiques à travailler ensemble, parce que l'objectif était de faire l'inventaire complet d'un cube d'univers. Alors un cube d'univers qui a une taille relativement importante, puisque en surface sur le ciel, ça couvrirait à peu près 9 fois la surface de la Lune, donc c'est une région du ciel importante, et en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on étudiait les objets qui sont aussi beaucoup plus loin dans l'univers que les premières galaxies qu'on peut apercevoir sur les images. Et donc ce projet s'appelle COSMOS. C'est donc un inventaire complet qui est fait, bien sûr, en premier lieu grâce au télescope spatial Hubble, mais aussi grâce à beaucoup d'observatoires au sol. On peut citer celui du télescope japonais de 8 mètres Subaru qui est à Hawaï, et bien sûr le grand télescope du VLT pour les Européens.
Alors, quel était l'objectif du programme scientifique d'observer dans cette région de ciel en profondeur et en distance, enfin en temps et en distance?
L'objectif général, c'est de faire vraiment l'inventaire complet, c'est-à-dire l'inventaire complet surtout des galaxies, des amas de galaxies et de tous les astres qui se trouvent dans ce cube d'univers. Mais dans l'étude qui nous intéresse, celle qui a donné le résultat de la matière noire, c'était de déceler des détails très fins dans l'image qui sont la déformation de la forme de certaines galaxies par l'influence de la matière qui se trouve entre nous et elles.
Une matière sombre, matière qu'on ne voit pas.
Toute la matière, qu'elle soit donc sombre, qu'elle émette de la lumière ou qu'elle n'en émette pas. C'est-à-dire que visible si elle émet de la lumière ou sombre si elle n'émet pas de lumière. Et on sait qu'effectivement, dans notre modèle d'univers actuel, on pense, et c'est une hypothèse, mais en fait c'est celle qui explique le mieux les observations jusqu'à maintenant, qu'environ 80% de la matière n'est pas sous une forme visible, mais elle est invisible. C'est ce qu'on appelle la matière noire.
Alors comment peut-on cartographier la matière invisible à partir de la matière visible? Est-ce qu'elle exerce des perturbations sur cette matière?
Oui, alors en fait, on applique là les lois de la relativité générale, c'est-à-dire qu'Einstein nous a appris qu'effectivement la lumière est déviée par la matière. On se rappelle de l'expérience de l'éclipse du Soleil qui effectivement était la première mise en évidence de ce phénomène-là. Donc ça veut dire qu'une lumière émise par une galaxie lointaine, elle fait tout un trajet entre nous, pour nous atteindre, et en fait sur ce trajet-là, si elle rencontre de la matière, elle est légèrement déviée. Alors évidemment, la déviation est infime, et c'est bien là que réside le problème. C'est que pour les astrophysiciens, le jeu a consisté à observer des champs de galaxies et à regarder leurs images et à voir si elles étaient ou non déformées par rapport aux images classiques des galaxies qui sont en général des ellipses. Donc en fait, c'est la comparaison de ces images normales des galaxies avec des images déformées qui nous donne la quantité de matière qu'elles ont traversée.
C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle.
Voilà, c'est l'effet de lentille, puisque c'est à la fois une déformation et une amplification, tout comme la lentille d'un objectif de photo, par exemple, effectivement, fait dévier la lumière.
Alors, on reste impressionné par la taille du programme, parce qu'il met en présence de nombreux télescopes, vous l'avez dit, dans l'espace avec Hubble, mais aussi au sol. Et quand on regarde, effectivement, le sondage réalisé par ce programme COSMOS, c'est 575 images avec la caméra à haute résolution de Hubble et plus de 1000 heures d'observation. C'est beaucoup, beaucoup.
C'est beaucoup. C'est pour ça que c'était un programme qui a été long à mettre en œuvre, mais qui a finalement donné en fait une étude de 500 000 galaxies. Un demi-million de galaxies ont été étudiées en détail sur leur forme, leur couleur. On a aussi des informations beaucoup plus générales sur la quantité d'étoiles qu'elles possèdent, sur leur couleur et la façon dont elles forment ou non des étoiles. Mais pour ce qui est de la matière noire, ce qui était important, c'était de regarder leur forme. C'est pour ça qu'on a utilisé le télescope Hubble, parce que c'est lui, grâce à sa position en dehors de l'atmosphère terrestre, qui donnait les images les plus précises et les plus détaillées. En revanche, on a utilisé les télescopes au sol pour mesurer notamment la distance de ces galaxies. Et donc, on compare effectivement avec les couleurs qu'elles ont, et donc on en déduit leur distance. Et puis, on a aussi dû utiliser un autre télescope spatial, qui est le télescope XMM, européen celui-ci, qui lui travaille en rayons X et qui nous donne la quantité de matière sous forme d'un gaz chaud, dont on sait qu'il participe notablement au bilan de la matière dans l'univers. Et c'est grâce à ça, grâce à toutes ces composantes, qu'on a fait un bilan complet.
Alors, la 3D, c'est la troisième dimension, et cette troisième dimension, elle est obtenue, j'imagine, par la profondeur des observations. On voit des galaxies de premier plan et des galaxies beaucoup plus lointaines. C'est une vraie tranche d'univers qui a été sondée.
Exactement. Pour chaque tranche, on a fait le même travail, c'est-à-dire qu'on avait donc, pour une galaxie lointaine, entre nous et elle, on mesurait la quantité de matière qui se trouvait, et puis quand on recule la galaxie, on a évidemment l'autre tranche qui intervient, et finalement, comme ça, on a véritablement une carte en trois dimensions de toute la matière de l'univers, toute celle qui évidemment dévie la lumière, donc la matière sous forme, sous toutes ses formes.
Alors évidemment, la question naturelle, c'est qu'est-ce que l'on apprend avec cette première carte trois dimensions de la matière noire? Qu'est-ce que l'on ne savait pas et que l'on découvre à cette occasion?
Ben, je crois que c'est le premier grand test sur une des questions fondamentales que tous les physiciens et astrophysiciens se posent. C'est est-ce que la matière noire se comporte comme la matière visible? Est-ce qu'elle s'accumule dans les mêmes régions d'univers? Est-ce qu'on a à chaque fois qu'on a de la matière visible, de la matière noire qui l'accompagne? C'était la grande question et on peut l'avouer, on n'avait pas encore du tout une étude suffisante pour donner un début de réponse à cette question-là. Donc, en fait, le résultat, d'ailleurs, il est, disons, 50-50, on va dire, mi-chèvre, mi-chou, parce que effectivement, en gros, si on regarde ces cartes maintenant, donc on peut superposer une carte de matière noire déduite de ces déformations des images de galaxies, et on peut la comparer à une carte de lumière visible de toutes les galaxies qui émettent de la lumière qu'on a à notre disposition. Quand on fait cette comparaison, on s'aperçoit que, grossièrement, les gros amas de matière noire coïncident avec des amas de galaxies connues, mais il y a aussi, dans les deux cas, deux situations. Une où la matière noire est toute seule, on ne voit aucune matière visible l'accompagnant, et l'autre où de la matière visible est là, et on ne voit pas de la matière noire au même endroit. Et ça, c'est une question extrêmement importante. Si elle se confirme, je dis bien si elle se confirme, parce qu'elle est très étonnante dans ses premiers résultats, et donc les scientifiques qui viennent de publier cette carte devront revoir toutes les sources d'erreurs potentielles, parce que la reconstruction évidemment de la matière noire est très compliquée. La matière visible, évidemment, on en a la carte immédiatement, mais faire une image de la matière noire, c'est quand même étudier toutes ces petites déformations, c'est très 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 difficile à faire. Mais disons que c'est l'aspect le plus intéressant, parce que dans la conception générale de la formation de ce qu'on appelle nous les grandes structures, qui sont effectivement galaxies et amas de galaxies, ces grands assemblements de milliards et de centaines de milliards d'étoiles, on pense que toutes ces structures sont nées à partir de petites inhomogénéités au départ de l'univers qui ont été amplifiées par la gravité. Et le facteur primordial là, évidemment, c'est la matière noire, puisqu'elle est au moins six fois plus importante en masse que la matière visible. Donc c'est elle qui a régi l'agglomération de ces structures. Et donc on s'attend donc tout naturellement à ce que principalement elle se soit effondrée, elle, en tant que matière noire, mais qu'au sein de cette matière noire ait émergé une lumière quand les étoiles se sont formées. Donc on s'attend vraiment à des cartes qui soient similaires de certaines façons.
Alors on cherche depuis très longtemps ce qu'est cette matière noire, la nature de la matière noire. On a cherché du côté du gaz, on a cherché du côté des petites étoiles, on cherche aujourd'hui du côté de particules. Est-ce que ces observations de distribution de la matière noire nous donnent des indications sur ce qu'elle est réellement?
Pas encore. On pourrait dire que là, on teste plus nos idées sur l'évolution de l'univers. On fait encore l'impasse sur la nature réelle de cette matière. Elle n'a que comme seule propriété que d'interagir par la gravitation uniquement. Maintenant, que ce soit des particules, que ce soit un gaz de particules non découvertes, que ce soit même des astres obscurs dont la structure n'aurait pas été découverte, ils se comporteront toujours du point de vue de la gravitation de la même façon. Donc pour l'instant, on voit ça à grande échelle, on pourrait dire de très loin. Et le jour où on ira voir de plus près une agglomération de matière noire, peut-être qu'on découvrira sa nature. Mais là, pour l'instant, on en trace une carte très, très générale, en fait.
Donc, si je vous comprends bien par rapport aux conclusions, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la matière noire est l'élément de base, si je puis dire, de la matière visible. Elle est associée à cette matière visible, mais elle peut exister là où de la lumière où de la matière visible n'est pas observable.
Apparemment, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a bien la confirmation que c'est elle qui est le facteur prédominant pour former les grandes structures. C'est elle qui structure l'univers. C'est elle qui est là pour montrer où s'accumule la matière. Mais que son association directe avec la matière visible est peut-être plus problématique qu'on ne le pensait. Pour autant, on a quand même vu pour la première fois qu'elle se distribue elle aussi sous forme de filaments. Par exemple, des choses qu'on voyait en lumière visible. Donc finalement, sa structure générale n'est pas très différente de la matière visible. Simplement, c'est la coïncidence des deux qui n'est pas objet par objet, si vous voulez. Donc en fait, on s'attendait à avoir peut-être une coïncidence plus exacte entre matière visible et matière noire, puisque finalement, dans la gravitation, elles sont traitées de la même façon.
Donc ça veut dire qu'elle est soumise, cette matière noire, aux mêmes lois physiques que la matière. matières visibles, en particulier la gravitation.
C'est cela. Sauf qu'effectivement, la différence de l'autre matière, celle qui est visible, elle ne va pas faire émerger des étoiles, parce que visiblement, ce n'est pas de la matière du même type. Et pour faire, par exemple, une étoile, il faut mettre deux atomes d'hydrogène et les faire fusionner, mais cette matière noire n'a pas d'atome d'hydrogène. Donc elle ne fera jamais une fusion, elle n'allumera jamais une étoile. Pour autant, de ce qu'on en connaisse, si elle n'est pas du tout dans le domaine des atomes que nous connaissons, en tout cas, elle ne formera pas une étoile qui émettra de la lumière.
Vous avouerez que c'est irritant de ne pas savoir ce que c'est exactement.
Oui, c'est même assez époustouflant. On pourrait le dire que malgré ça, malgré qu'on ne connaisse pas sa nature exacte, on puisse quand même, d'une part, en dresser une carte, et d'autre part, effectivement, retracer quand même l'évolution de l'univers, malgré cette incertitude. Mais le jour, effectivement, la nature exacte sera dévoilée, sans doute, ça amènera aussi à beaucoup plus de circonspection sur toute son interaction dans l'histoire de l'univers. Mais en fait, en gros, on est un peu rassuré, c'est-à-dire qu'elle a joué à peu près son rôle. Mais vous savez qu'effectivement, la matière noire, elle reste quand même une énigme actuelle très irritante pour les physiciens.
Alors, il y a beaucoup de monde associé à ces observations. Hein. On a parlé de chercheurs américains, allemands, il y a des Français, il y a des gens de l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP, du laboratoire d'astronomie de Marseille, le LAM, du commissariat à l'énergie atomique. C'est un vrai programme international. On y participe parce qu'on est aussi associé au programme scientifique du Hubble Space Telescope.
Je pense que oui, en partie, pour un certain nombre de scientifiques, mais que là, c'est largement transversal. C'est-à-dire que quand on commence à mettre en œuvre plusieurs instruments différents, on n'est plus en fait soumis à l'acceptation sur un des télescopes sur un autre. En fait, on fait un programme global, de plus en plus d'études semaines comme ça, en disant pour faire telle étude, on a besoin de tel et tel instrument, et on convoque entre guillemets des scientifiques de chacun de ces disciplines, c'est ceux qui sont les plus proches de l'instrumentation dont on a besoin, et on leur demande de faire en même temps le même genre de demande. Et c'est pour ça que ces études finalement sont spectaculaires à l'heure actuelle, parce que bon, la science, on le sait, est internationale, mais là encore plus qu'auparavant, il faut faire appel à différents instruments situés dans différentes parties du monde appartenant à différentes nations, et ce sont des très grosses collaborations qui se mettent en œuvre.
Alors vous avez parlé quand même de mesures très délicates, très fines sur la modification de la lumière des galaxies visibles orchestrées par la matière noire. Ça veut dire qu'il y a des risques d'erreur ou on est, par la grande quantité d'observations, finalement assez sûr des résultats qui sont publiés?
Je dirais les deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore des risques d'erreur, parce qu'effectivement, si on fait le calcul strict, en fait, de placer un objet qui dévie la lumière entre nous et un objet qui émet de la lumière qui est une galaxie lointaine, il y a différentes configurations qui peuvent donner le même résultat. Voilà le problème. C'est-à-dire la même déformation peut être donnée par une matière plus proche de nous et une galaxie un peu plus loin, ou l'inverse. Et en fait, on ne peut pas déterminer laquelle est la meilleure des solutions. On prend la solution moyenne, et parfois, effectivement, ça peut créer des sources d'erreur.
Alors on remonte, dit-on, jusqu'à la moitié de l'âge de l'univers. C'est quand même assez profond, assez lointain. Et là, il ne peut pas y avoir d'autres objets ou d'autres effets qui déforment la lumière des galaxies lointaines.
Non, en fait, du point de vue de la forme, c'est pour ça que c'est assez puissant. On peut avoir d'autres effets qui atténuent la lumière d'une galaxie, par exemple la poussière interstellaire l'atténuation par les différents effets. Mais la déformation des images, pour autant qu'on l'attribue aux effets de la gravitation, effectivement, c'est une des meilleures façons de déterminer la quantité de matière, malgré ces incertitudes sur, évidemment, les différentes configurations dans lesquelles on ne peut ne pas pouvoir décider de temps en temps. Mais c'est effectivement ces effets un peu parasites qu'on a souvent quand les astrophysiciens essayent par exemple de déterminer la distance. C'est pas toujours très très facile de déterminer la distance.
Alors là, c'est une première expérience et deux premiers résultats. Ça veut dire que dans les années qui viennent, on va essayer d'améliorer ces cartes, leur résolution. J'imagine, on parle de nouvelles expériences, en particulier des observatoires spatiaux comme DUNE, dont j'ai cru comprendre que ça signifiait Dark Universe Observer. On va essayer d'affiner la précision de ces cartes.
Oui, je pense surtout dans le cas de DUNE, qui était donc une expérience spatiale qui est projetée dans le futur pour au-delà des années 2010-2012. Donc c'est le Dark Universe, comme vous avez dit, Explorer. Donc elle va explorer cette partie sombre de l'univers. Et alors là, le but ultime, c'est de passer de cette espèce de région qui est déjà vaste, hein, on a dit 9 fois la surface de la pleine Lune, à carrément la moitié du ciel. C'est-à-dire on va faire un inventaire complet, Hein, donc, de nouveau, jusqu'à une certaine profondeur, on ne pourra pas atteindre non plus des profondeurs beaucoup plus élevées, mais on fera. Alors, comme de cette façon-là, on se dédouanera de certains aspects qui pourraient être que dans certaines régions du ciel, il y ait des agglomérations particulières, dans d'autres, il y en ait d'autres. Et donc, on aura une vision beaucoup plus globale, pratiquement générale du ciel. Et c'est ça qui est l'objectif de cette expérience spatiale, avec évidemment l'avantage de se trouver dans l'espace et dédié totalement à cette étude-là. Parce que là, on a parlé du télescope Hubble, on a demandé 1000 heures pour cette étude, 1000 heures d'observation ont été obtenues, mais évidemment le télescope spatial faisait d'autres études, alors que là Dune sera totalement consacré à l'étude de ces déformations gravitationnelles et donc aura tout le temps de dresser la carte au moins la moitié du ciel.
Donc l'idée c'est bien de faire une carte globale de la matière noire pour l'ensemble de l'univers. On considère déjà aujourd'hui qu'une tranche d'univers parle pour l'ensemble de l'univers, on peut extrapoler.
Oui, en général on le fait, mais sachant qu'évidemment il y a parfois des pièges, mais c'est quelque chose que donc on sait qu'on applique cette théorie-là en faisant des sondages dans une petite région d'univers et en généralisant. En général ça marche assez bien, mais néanmoins déjà pour effectivement avoir beaucoup plus de nombre de galaxies, donc finalement éliminer ces sources d'erreurs dont on parlait tout à l'heure, on pense qu'effectivement observer la moitié du ciel, donc c'est au moins ce qui est nécessaire pour avoir une très bonne idée cette fois-ci des résultats qu'on attend.
Alors, est-ce qu'une carte assez complète, bien définie de la matière noire et de sa distribution dans l'univers peut nous donner des informations sur l'autre deuxième grand mystère dont discute tout le monde aujourd'hui, qui est celle de l'énergie noire, cette source mystérieuse d'expansion de l'univers lui-même?
Ben, c'est assez découplé en quelque sorte. La matière noire évidemment est un acteur primordial puisque c'est pratiquement toute la matière de l'univers, donc elle sert de frein à cette expansion. On le rappelle que la matière attire, donc en fait freine l'expansion, tandis que cette énergie sombre est là un facteur de pression négative, on dit, c'est-à-dire qui pousse l'expansion. Donc c'est un équilibre entre les deux auquel on assiste. Donc si cet équilibre a varié ou varie ou variera, en fait c'est bien entre les deux dont il faut ces deux quantités qu'il faut mettre face à face. Donc la matière noire est importante, il faut qu'on en ait un bilan de masse, un bilan de distribution, mais pour autant cette fameuse énergie sombre est un phénomène physique beaucoup plus générale, dont on n'a effectivement pas du tout idée de quelle est la nature du phénomène, et qui évidemment entraîne cette expansion accélérée de l'univers. Et je pense que, comme toujours, il faut avoir déjà un très bon bilan du contenu connu de l'univers, que ça soit de la matière visible ou de la matière noire maintenant, pour pouvoir effectivement essayer de calculer au mieux la force, cette force qui propulse l'expansion. Donc les deux sont liés, mais pas directement.
Alors ce bilan, il est aussi donné par la cartographie de l'univers, et depuis de nombreuses années, au moins une bonne dizaine d'années, des grandes surveys, en tout cas des grandes
sondages
profonds sont en cours pour essayer de cartographier cet univers. Aujourd'hui, on a une bonne idée de ce à quoi ressemble l'univers global profond.
Oui, on en a. Alors là aussi, c'était ces deux études. Bon, parfois, il y a deux études séparées, des sondages profonds qui vont très très loin dans une petite région d'univers.
Des pinceaux.
Et des sondages plus globaux, plus larges en surface, mais qui donc du coup vont moins loin parce qu'évidemment le nombre d'objets croît exponentiellement. Et donc ces deux études ont donné des résultats complémentaires, notamment les études à grande échelle nous ont montré qu'effectivement, là on parle de la matière visible, on est bien d'accord, hein, donc que la matière visible se répartit bien sûr en galaxies qui se regroupent en amas de galaxies, et que ces grands amas de galaxies ont tendance à naître à des confluents de filaments de matière. Ça, c'est une découverte relativement récente qui nous montre que la matière visible, celle qui émet de la lumière en tout cas, n'est pas répartie totalement homogènement, mais qu'elle fait des espèces de grandes bulles de vide dont les murs sont peuplés de matière visible, peuplés de filaments de galaxies. Et aux intersections de ces filaments de galaxies, on trouve les gros amas de galaxies. Donc c'est déjà une idée de la façon dont se structure la matière dans l'univers. Elle ne se répartit pas homogènement, mais elle fait des espèces de grandes bulles de vide. Et puis sur la surface de ces grandes bulles de vide, on a la matière qui se distribue. Alors pourquoi ? Ça c'est une question très intéressante. Et c'est effectivement le travail de certains astrophysiciens dans les simulations numériques notamment, pour essayer de retrouver quel est le mécanisme, comment ça se fait, et quelle est la façon dont ces structures se sont finalement formées.
Et donc de comparer aujourd'hui les deux cartes, carte de l'univers visible, de la lumière émise par les galaxies, et carte de l'univers matière sombre associée à cette lumière visible, nous permet de mieux comprendre les processus de formation et d'évolution.
Bien sûr, puisque finalement on n'avait pour l'instant que la lumière visible à notre disposition, Mais comme elle ne représente qu'une faible fraction, hein, moins de 20% de toute la matière, en fait, il fallait se préoccuper d'abord de savoir si la matière noire était répartie plus ou moins comme la matière visible. Donc on fait ce deuxième inventaire. Il se fait juste maintenant parce qu'on a pris conscience que très tardivement que la contribution de cette matière noire existait. Mais c'est une fois qu'on aura cette carte de matière noire complète qu'on pourra vraiment comparer avec la structure de l'univers et son évolution. Évidemment, pour l'instant, on n'en avait qu'une faible fraction. Si par chance, cette fraction visible se corrèle, comme on dit dans notre jargon, hein, évidemment, est au même endroit plus ou moins que la matière noire, on n'aura aucune difficulté. Si en revanche, elle est répartie totalement différemment, alors là, il faudra revoir notre copie, si on peut dire.
Merci Jean-Marc Bodébido, merci à vous de nous avoir écoutés, et puis rendez-vous dans un prochain épisode.